Matsingina nel Sahara.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction vietnamienne, Tana Tran. Vous reviendrez sur le calvaire de ces migrants vietnamiens retrouvés morts, ils étaient 39, dans le conteneur transporté par un camion en Grande-Bretagne. Asbel Lopez de la rédaction en espagnol.
Hola Philippe.
Pour un nouveau point sur la crise au Chili. Et Miguel Martins de la rédaction lusophone.
Bonnet.
Pour les derniers événements survenus en Guinée-Bissau. Bonsoir à vous tous. Avant cela, intéressons-nous à ce débat en France qui n'en finit pas autour du port du voile. Par là même, c'est tout le débat sur la place des musulmans dans la société qui est posé. Il y a un nouveau projet de loi voté par le Sénat, l'interview d'Emmanuel Macron accordée au magazine Valeurs Actuelles. Alors, Miguel Martins, lorsqu'on parle du voile en France, on touche là à un sujet un peu plus sensible, ne serait-ce que parce que le fait que l'islam est la deuxième religion du pays, la France étant le pays avec la plus importante communauté musulmane de toute l'Europe.
Voilà Philippe, les musulmans représenteraient d'après l'AFP 7,5% de la population française, ce qui est considérable. Les croyants de cette religion dénoncent souvent le fait d'être stigmatisés, et ce alors que le Rassemblement National, le parti d'extrême droite qui est devenu la deuxième force politique française, tient à imposer le sujet dans le débat politique, et ce depuis les années 80. Selon la Commission française consultative des droits de l'homme, 59% des Français considèrent le voile incompatible avec leur société. La radicalisation se greffe à ce scénario, notamment 4 semaines après une attaque à la préfecture de police de Paris menée par l'employé converti à l'islam, ce qui a amené le président Emmanuel Macron à dénoncer le séparatisme du communautarisme contre lequel il faudrait lutter.
Et pour sa part, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé le fait que la parole raciste contre les musulmans s'est déchaînée.
En effet, Philippe, le leader de la France insoumise, de la gauche radicale, réagissait ainsi au débat sur le voile et la place de l'islam dans le pays, à un moment où la semaine a été marquée par l'attentat contre la mosquée de Bayonne dans le sud-ouest. 2 personnes avaient été blessées dans cette attaque qui, selon un ancien militant d'extrême droite, se destinait à venger l'incendie de Notre-Dame, la cathédrale parisienne, qui a brûlé le 15 avril dernier, officiellement pour des raisons liées au chantier de restauration en cours et qui ne serait donc pas d'origine criminelle. Selon un expert du CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, Sébastien Rocher, cité par l'AFP, il y aurait un durcissement sur la question du voile, car il serait perçu comme une atteinte à 2 évolutions majeures en France, la laïcité du début du XXe siècle et la libération de la femme des années 70.
Asbel Lopez, quant au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, il a évoqué le fait que des hommes refusent de serrer la main à des femmes.
Comme par exemple quand il est écrit dans un rapport de la chef de l'antiterrorisme à Paris que l'auteur de l'attaque contre la préfecture de police, Michael Harpon, ne serrait plus les mains des femmes. Sur ce geste, en apparence banale, on commence à parler davantage dans les médias. Blanquer l'a évoqué pour justifier sa position sur le voile. D'un côté, il est contre la loi qui a déjà été votée au Sénat pour interdire aux mères accompagnatrices de porter le voile lors des sorties scolaires. Pour lui, cette loi est contre-productive. D'un autre côté, cependant, Blanquer trouve que le port du voile n'est pas souhaitable, car en contradiction avec le modèle républicain de la France. Il a donc rappelé qu'il y a beaucoup de choses autorisées aujourd'hui dans la société française, mais qui ne sont pas souhaitables. C'est là qu'il a cité l'exemple des hommes qui refusent de serrer la main à des femmes. Il a souligné qu'il serait absurde de voter une loi pour obliger les hommes à serrer la main d'une femme. Mais en même temps, ce type de comportement, à ses yeux, n'est pas souhaitable.
Asbel, du reste, refuser de serrer la main à une femme pour des raisons religieuses, ça ne signifie pas qu'un attentat va être commis.
Bien sûr, Philippe, c'est l'évidence même. Il ne faut surtout pas stigmatiser une communauté ni des personnes. Je reviens à Blanquer. Selon lui, il faut faire la différence entre lutte contre la radicalisation et lutte contre le communautarisme. Car même s'il y a parfois des liens entre les deux, ce sont 2 combats différents. Il y a d'un côté les signes propres à une communauté, ou en tout cas à certains de ses membres, qui sont tout à fait banals, et puis des signes vers un islam radical, vers un islam politique, car là, il y a risque de dérive vers la violence extrême. C'est ce que Macron appelle des petits riens qui peuvent devenir des grandes tragédies. Pour combattre l'hydre islamiste, d'ailleurs, le président a dit qu'il voulait bâtir une société de vigilance, pas du soupçon, société de la vigilance, un immense défi pour les années à venir.
Thanh La Tran, a-t-il été question de tout cela sur l'antenne vietnamienne de Radio France Internationale ?
Oui, dans une petite proportion, parce que nous avons effleuré ce sujet pour plusieurs raisons. La première, elle est d'ordre circonstanciel, c'est-à-dire que l'actualité sur le Vietnam et sur l'Asie cette semaine a été très chargée. Mais la seconde raison, et qui est peut-être la plus importante, c'est que nous nous interrogeons aussi sur la pertinence de ces débats. Je rappelle que dans la première semaine qui a suivi cet incident de maman voilée accompagnant son enfant pour une sortie de l'école, il y a eu en tout à peu près plus de 80 débats avec plus de 300 invités qui ont participé. Et puis, on se demande, mais combien de personnes seront intéressées par ces débats ? Et aussi, quand on suit de près ces discussions entre les invités et les journalistes, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup d'imprécisions.
Oui, un sondage publié par le journal du dimanche dernier montrait que cette question-là n'arrivait qu'en quatrième ou cinquième position dans les priorités des Français. Thanh La Tran, c'est sur le terrain du vivre ensemble que vous avez mis l'accent. Hein, vous.
Oui, toutefois, on s'est rendu compte que tout ce sujet, tout ce débat révèle une chose. Il y a une hystérie sur le port du voile finalement reflète la peur de l'autre. Et on sait qu'en France, la France est un pays où le vivre ensemble est très important, le respect de soi, mais aussi de l'autre, des autres, c'est très important. Et c'est tout cela qui fait que c'est un atout de la France. Et une intégration réussie est un contrat à deux, je dirais, c'est-à-dire à l'arrivant, de trouver sa place dans une société qui vous accueille avec bienveillance et une garantie de l'égalité des chances.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce débat en France sur le port du voile. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. La COP25 aura bien lieu en Espagne le mois prochain, en Espagne et non au Chili, comme prévu. En effet, cette semaine, le gouvernement a annoncé qu'il renonçait à accueillir ce sommet international ainsi que celui de l'APEC à cause de la contestation qui ne faiblit pas au Chili. Asbel Lopez de la rédaction en espagnol. Certains parlent d'ambiance pré-révolutionnaire là-bas. Or, le Chili est un modèle d'un point de vue économique. Que se passe-t-il donc ?
Vous avez raison de souligner ce paradoxe, Philippe. L'économie du Chili crée de la richesse. Ses bases sont solides. Selon un expert que nous avons interviewé hier, l'économie chilienne est peut-être la plus performante de tous les pays hispanophones. D'un point de vue politique, ce n'est pas non plus un désastre. Il y a eu des élections il y a un peu moins de 2 ans. L'actuel président Sébastien Piñera a été élu au deuxième tour avec un avantage confortable de 9 points. Mais visiblement, tout n'est pas rose dans ce pays. Voici un début d'explication à votre question avec une manifestante interviewée par notre correspondant à Santiago, la capitale du Chili, Yasna Musa.
Lo que nos convoca todo el día, yo creo, es lo mismo. El abuso que ya estamos cansados.
Que dit-elle ?
Son indignation ne concerne pas exclusivement le gouvernement conservateur de Piñera. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Elle accuse tous les gouvernements précédents de déficiences actuelles des services publics, que ce soit l'éducation, les services de santé, le transport. C'est d'ailleurs l'augmentation du prix du ticket du métro à Santiago qui a mis les feux aux poudres. Il y a aussi la précarité des employés et des retraités, le fait que la plupart des services publics ont été privatisés, par exemple. Ce sont des inégalités cumulées au fil des ans.
Et puis la manifestante qu'on vient d'entendre reproche également aux politiciens leur arrogance et le fait qu'ils aient tenu des propos humiliants.
En effet, Philippe, il y a aussi « se rien en nuestras caras », ils se moquent de nous. Par exemple, pour se rendre chez un médecin, des milliers de Chiliens doivent attendre un rendez-vous pendant des mois. Or, un ministre a dit que les gens vont en consultation pour papoter et faire des connaissances. Un autre a dit que si les gens voulaient payer moins le ticket de métro, ils n'avaient qu'à se lever plus tôt. Le président Piñera lui-même, dont son cousin était ministre de l'Intérieur, a dit il y a quelque temps que le Chili était un paradis en Amérique du Sud. Piñera disait entendre les complaintes des gens, leurs revendications, mais cela n'avait aucun impact après dans son discours et sa politique. Vu les violences de ces derniers jours, Piñera a changé de ton, il a demandé des excuses et remanié son gouvernement. Pour certains, c'est le minimum qu'il devait faire face à cette crise. Personne n'en sait pourtant si ces pavants suffirent pour calmer la rue.
Et vous observez toute cette région d'Amérique latine hispanophone. Est-ce qu'il y a un risque que ce qui se passe au Chili fasse écho dans d'autres pays sud-américains?
Oui, tout à fait. Et en particulier en Argentine, parce qu'en Argentine, il y a une situation économique très difficile. Il y a une crise économique, même s'ils ont de l'oxygène, parce qu'il y a eu un nouvel président, Alberto Fernández. Donc peut-être cet oxygène politique peut éviter cette situation, mais c'est contagieux. Ça peut passé en Argentine.
Et la rédaction de RFI en espagnol suit bien évidemment tout cela de très près. C'était Asbel Lopez. Tran à Tran, la rédaction de RFI en langue vietnamienne est largement revenue sur la découverte d'un camion charnier dans le comté de l'Essex, à l'est de Londres. À son bord, 39 corps sans vie et la plupart des victimes seraient vietnamiennes.
Oui, soyons très prudents sur les affirmations. L'enquête se poursuit. La police anglaise n'a pas encore communiqué le nombre exact de victimes de nationalité vietnamienne. Mais ce qu'on sait, c'est que 2 jours après la découverte de ce camion frigorifique, dont le chauffeur a été immédiatement arrêté, la police anglaise a appelé la communauté vietnamienne du Royaume-Uni comme du Vietnam à lui prêter main forte. Londres a également envoyé un certain nombre de dossiers aux autorités vietnamiennes pour aider la police anglaise à identifier les victimes. Nous avons rejoint un observateur vietnamien vivant à Manchester qui suit bien l'actualité des flux des migrants vietnamiens venant au Royaume-Uni. Voilà ce qu'il nous explique.
Alors, que dit-il ?
La police anglaise fait appel à la communauté vietnamienne pour les aider, mais le travail ne sera pas simple parce qu'il faut aussi qu'ils garantissent à ceux qui viennent les aider de les préserver, de les protéger, car ceux qui sont capables de les aider sont souvent également les clandestins eux-mêmes, soit ils ont un emploi qui n'est pas déclaré. Donc ça va être un travail de très longue haleine.
Au Vietnam, que sait-on de cette affaire?
Alors, aux dernières nouvelles, la police vietnamienne vient d'arrêter 2 personnes soupçonnées liées donc à cette affaire. Côté anglaise, la police anglaise aussi a appelé les 2 suspects principaux à se présenter. Et par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'au Vietnam, les famille de la province de Nghệ An, qui est dans le centre du Vietnam, une région très pauvre, qui se sont manifestés, a expliqué que peut-être ils craignent que leurs parents soient dans ce fameux camion.
C'est parce que tous les corps n'ont pas été identifiés.
Oui, on n'a pas encore l'information là-dessus.
Alors, plus largement, ces migrants qui quittent illégalement leur pays pour l'Occident, la Grande-Bretagne en l'occurrence, qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils entrent en territoire britannique et que font-ils une fois qu'ils sont arrivés là-bas?
Voilà, depuis cette affaire, les témoignages sortent plus ou moins de l'ombre. On sait que, par exemple, pour avoir un billet venant du Vietnam jusqu'au Royaume-Uni peut coûter entre 15 et 30 000 dollars, qui est une somme énorme. La Belgique et la France ont souvent les nœuds importants avant d'arriver en Angleterre. La plupart des clandestins partent soit de Russie, puis traversent la Pologne, l'Allemagne avant d'arriver en France, soit récemment, on a quelques témoignages qui partent de la Chine. Alors, après, une fois arrivés en Angleterre, que font-ils pour vivre? Eh bien, on sait qu'ils sont essentiellement repérés dans 2 domaines, c'est-à-dire la plantation illégale de cannabis ou bien travailler pour les échoppes d'onglerie.
C'est-à-dire qu'ils posent des ongles?
Oui.
C'est quand même étonnant.
Faire les ongles, mettre des vernis.
Il faut être très méticuleux.
Voilà.
Mais entre la plantation de cannabis et faire les ongles, il y a quand même.
Ils sont spécialisés dans ces 2 domaines.
Tran à Tran de la rédaction vietnamienne de Radio France Internationale. Un tout petit pays de la taille de la Belgique, situé en Afrique de l'Ouest, continue de faire parler de lui pour l'instabilité politique chronique qu'il connaît. En Guinée-Bissau, puisque c'est de ce pays dont il s'agit, la semaine a encore été riche en rebondissements, Miguel Martins. Le pays a désormais deux gouvernements et la communauté internationale semble prise de court.
C'est le constat en effet, Philippe, que l'on pourrait faire à la veille de l'arrivée d'une nouvelle délégation de la CEDUAO, la Communauté économique de cette Afrique de l'Ouest, une organisation qui depuis des années essaye en vain de ramener le calme à ce pays lusophone indépendant depuis 46 ans. Mais le chef de l'État, José Mário Vaz, a bien prévenu, il est hors de question de mettre le pays sous tutelle, il l'a dit ce jeudi, en faisant investir un nouveau gouvernement en dépit de la condamnation des partenaires étrangers du pays. Je vous propose de l'écouter.
O nosso país atravessa um dos momentos mais decisivos na sua história recente.
Que dit le président bissau-guinéen?
José Mário Vaz disait que le pays vivait l'un des moments les plus décisifs de son histoire récente. Après avoir obtenu l'indépendance avec héroïsme, bravoure et vaillance il y a 46 ans, actuellement, certains acteurs intérieurs et extérieurs prétendraient imposer une sorte de tutelle internationale. Et ceci de façon à hypothéquer la souveraineté nationale pour empêcher les Bissau-Guinéens de penser avec leur tête et de marcher avec leurs pieds.
Alors tout cela survient à un moment où le parti de gouvernement a pour principale tâche la préparation des élections présidentielles qui auront lieu ce 24 novembre.
C'est exact, Philippe. Le gouvernement chapeauté par Aristides Gomes, issu des élections législatives de mars, prétend continuer à s'y atteler. Le nouvel exécutif de son côté en dit de même, alors que la campagne, elle, devrait démarrer ce samedi. L'un des candidats n'est autre que le président sortant, dont le mandat s'est terminé en juin dernier et qui depuis n'était supposé que disposer de pouvoirs restreints. Cependant, cette semaine, il a signé plusieurs décrets mettant un terme au mandat du gouvernement et nommant un autre exécutif aussitôt investi. Le président de la République, lui, a pris ses décisions sous prétexte de l'instabilité politique qui règne dans le pays. Nombre d'acteurs politiques critiquant l'organisation du scrutin présidentiel par rapport aux cahiers électoraux retenus par les organisateurs de l'élection qui seront les mêmes qui ont été utilisés pour les élections législatives.
Bon, au bout du compte, on le voit, la confusion est totale, Miguel. Pendant ce temps-là, de quelle marge dispose le gouvernement sortant pour rester en fonction?
C'est tout l'enjeu de cette nouvelle crise. L'Union africaine, la CEDUAO, la CPLP, la Communauté des pays de langue portugaise notamment, lui apporte son soutien. Aristides Gomes dénonce un coup d'État, écoutons-le.
C'est le commerce d'un golpe d'État, évidemment. Premièrement, on affronte la Constitution.
Alors, Aristides Gomes, c'est le Premier ministre qui a été limogé. Là aussi, que dit-il?
Aristides Gomes dénonce un coup d'État, un affront à la Constitution en vue d'empêcher la tenue des élections présidentielles à la date prévue. Selon lui, l'idée du président sortant, ce serait de faire en sorte que ce soit un gouvernement illégal qui puisse organiser les élections et mener à bien le travail susceptible de lui convenir le mieux en tant que candidat lui-même à ce scrutin. Il faut rappeler qu'en 2015, le chef de l'État, issu lui-même du PAIGC, a limogé le Premier ministre de l'époque. Depuis, les dissidents de cette force historique l'ont quitté pour former un nouveau parti, arrivé deuxième lors des élections de mars. Le président, qui a refusé d'investir le leader du parti vainqueur aux élections législatives de mars, je fais allusion à Domingos Simões Pereira, c'est donc Aristides Gomes qui avait fini par accepter de lui succéder, le même qui a été limogé par le président donc cette semaine.
Voilà donc pour une situation dans ce petit pays, et on n'a pas fini d'en parler, vous allez bien évidemment suivre ces élections du 24 novembre prochain.
Et déjà demain l'arrivée de la délégation de la CEDEAO, comme je le disais, pour l'instant l'Union africaine, l'ONU disent être inquiètes, mais le gouvernement prétend ne pas avoir entendu de condamnation ferme de ce qui s'est passé, donc de l'investiture du nouveau gouvernement. Pour l'instant, voilà deux gouvernements en place dans le même pays.
Ça fait un petit peu penser à ce qui se passe au Venezuela.
Oui,
hein,
exactement.
Eh oui. Enfin, là, on n'a pas deux, on a deux présidents.
Deux présidents.
Au Venezuela,
ouais.
Et là, on a deux chefs de gouvernement en Guinée-Bissau. Bah, écoutez, c'est une donnée nouvelle, en politique, dans le monde. Le monde qui était écouté dans Accent du Monde, justement, sur RFI, toutes les semaines à cette même heure. Merci pour votre attention.